Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition de ce jeudi 20 juin sur Radio de la Paix. Au sommaire, la question de l'article 185 nouveau du code pénal ainsi que la déclaration d'Alassane Ouattara devant le Parlement mardi dernier ont fait l'objet de décryptage ce jeudi à la 27e tribune du PPACI animée par son président exécutif Sébastien Danon-Djedjé. On en parle à l'entame de ce journal. Et puis le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, était face à la presse également ce jeudi 20 juin pour expliquer l'importance des brevets dans la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et donc inciter les opérateurs économiques privés à financer la recherche. Sur le plan international, le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des questions relations internationales, analysera la décision de la France de réduire ses troupes dans ses anciennes colonies africaines. Le 27e numéro de la tribune du PPACI s'est tenu ce jeudi au siège du parti, animé par le président exécutif Sébastien Danon-Djedjé. Le bilan de l'opération CAP 2025, campagne de soutien à la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025, la polémique sur l'article 185 nouveau du code pénal et la déclaration du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès le mardi dernier ont meublé cette rencontre avec la presse sur les attentes du Parti des Peuples africains. Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire paisible et des élections acceptées de tous en 2025, suivant la réaction de Sébastien Danon-Djedjé.
Nous sommes dans un pays que nous aimons tous et nous ne voulons pas que ce pays retombe dans le travers que nous avons connu. Nous voulons que ce pays retrouve ses marques, ses valeurs d'antan. C'est pour ça que nous nous battons, pour permettre aux Ivoiriens de vivre heureux, pour que ce pays retrouve ses marques, pour serrer les boulons, les clous, pour laisser à la postérité une Côte d'Ivoire solide, une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix, pour que ceux qui viennent demain puissent travailler sur un terreau déjà prospère et réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser. Donc je vous appelle pour relayer notre message. Notre message est très simple. Nous sommes à l'orée des élections 2025. Nous voulons que ces élections se passent dans la paix, de la fraternité, de la tolérance totale. Pour y arriver, nous avons des efforts à faire. Ces efforts passent par la mise en place des structures qui vont organiser les élections de façon saine et de la confiance. Ça concerne la commission électorale indépendante qui doit faire preuve d'impartialité. Au jour d'aujourd'hui, cette commission ne donne pas cette impression. C'est pour ça que nous demandons qu'on remette en place une nouvelle commission électorale indépendante qui va faire le travail pour tous les Ivoiriens et non le travail d'un camp. Deuxième chose que nous demandons, c'est que tout ce qui concerne le processus électoral, que ce soit les élections, les listes électorales, découpage électoral, que tout cela fasse l'objet d'une discussion fraternelle, consensuelle, pour que les décisions qui sortent de là puissent être appliquées et que chacun s'y retrouve.
C'était à l'instant le président exécutif du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Sébastien Danon-Djedjé. Et sur la question de l'article 185 des ONG de défense des droits de l'homme baptisé les Libertés, on saisit hier le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur les articles incriminés en lien avec les libertés fondamentales. Le coordonnateur du collectif Les Libertés, par ailleurs président de Civis Côte d'Ivoire, revient sur les motivations de cette action. Écoutons Dr Christophe Kwame.
Nous pensons que certaines lois ont violé nos droits et restreindre nos libertés. Nous avons déféré ces lois en face du juge constitutionnel qui seul est habilité à regarder la Constitution d'une part, à regarder ces lois d'autre part et les articles incriminés et nous donner son point de vue juridique si nous avons raison ou si nous avons tort.
C'est en raison surtout de l'article 185 nouveau du Code pénal de votre pays.
En effet, l'article 185 vient carrément nous interdire même de dire des choses ou de soutenir un tiers qui serait déjà dans les bras de la justice.
Mais que reprochez-vous à ces articles précisément?
La Constitution dit à son article 20 dans son préambule que toute personne a le droit de s'exprimer, dire ce qu'il a envie de dire dans les limites de la loi. Nous, on peut se lever en tant que ONG, en tant que citoyen, pour marcher vers le ministère de l'urbanisme, pour dire on n'est pas content que le gouvernement laisse les quartiers s'inonder. Ça, c'est ce que la Constitution nous permet. Mais les lois et les articles incriminés disent d'autre part qu'on n'a pas ce droit spontané de marcher en Côte d'Ivoire. On est obligé d'aller demander une permission, comme si on n'était pas citoyen de tout droit.
À l'instant, Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, que vous venez d'entendre, il est le coordinateur du collectif Les Libertés et était en ligne avec Soro Adams. D'une loi à une autre, on passe cette fois à celle relative aux procédures applicables aux contentieux liés au bail à usage d'habitation, mais aussi à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble adoptées récemment en Conseil des ministres. Concrètement, avec ce nouveau projet de loi, qu'est-ce qui change désormais dans les procédures en matière de contentieux entre bailleurs et locataires? Pour le savoir, suivons les explications de Jean-Louis Lobé, juriste, conseil et expert en droit immobilier.
Le ministre de la Justice a compris les lenteurs que nous avons en matière d'exécution, de rendu de décision devant les tribunaux. Vous avez un locataire qui vous doit, vous le conduisez devant les tribunaux. Au lieu qu'on vous libère aussitôt, vous pouvez passer 6 mois, 1 an devant la justice. Ce qui emmène beaucoup de bailleurs aujourd'hui à recourir à une justice privée. Ils se rendent justice parce qu'ils estiment que la justice n'a plus lieu d'être et qu'elle est lente. Donc, monsieur le garde des Sceaux, conscient de ce problème-là, a décidé de prendre ce projet de loi pour instituer une procédure spéciale adaptée à la question des contentieux locatifs. Parce que jusqu'ici, on appliquait le code de procédure civile et le code de procédure civile ivoirien n'imposait pas aux juges ivoiriens des délais pour pouvoir statuer sur les contentieux liés au bail d'habitation qui leur étaient soumis.
De ce projet de loi, qu'est-ce qui vient améliorer donc dans la procédure?
Il va venir soigner la question des lenteurs et imposer des délais d'action procédurale aux commissaires de justice qui sont chargés en Côte d'Ivoire de l'exécution des décisions rendues par la justice. Et plus loin, ce projet de loi va étendre le spectre de la réglementation des contentieux locatifs au bail professionnel.
Jean-Louis Lobé, juriste, conseil et expert en droit immobilier, a été joint par Jean-Claude Comy. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, a organisé un petit déjeuner de l'innovation ce jeudi 20 juin à Abidjan. Et face à la presse, aux chercheurs et innovateurs, il a été question pour le FONSTI et son partenaire, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OAPI, de se prononcer sur l'importance des brevets dans la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Paul-Bénédicte Bolou.
À combien évaluer le coût de la recherche en Côte d'Ivoire, Dr Sangaré Yaya, directeur général du FONSTI?
La Côte d'Ivoire consacre 0,35% de son PIB au financement de la recherche. Mais nous pouvons faire mieux. L'objectif, c'est d'arriver à 1%. Les recherches scientifiques en Côte d'Ivoire débouchent pour l'essentiel sur des publications scientifiques. Ces publications scientifiques dorment dans les tiroirs. Si nous voulons que la recherche scientifique ait un véritable impact sur le développement économique et social de notre pays, il faudrait que nos chercheurs déposent davantage de brevets.
Sur la fréquence de dépôt des brevets à l'OIPI, son directeur général, Dr Assondé Kofi Paul.
En moyenne, on a autour de 25 brevets par an. Mais dans les 25 brevets, vous avez en moyenne 2 brevets qui sont déposés par le secteur privé et l'essentiel est déposé par des particuliers. Parce que le secteur privé doit être l'acteur clé de l'innovation. Cette activité doit permettre de sensibiliser les opérateurs économique à s'intéresser au financement de la recherche pour que de plus en plus de brevets venant du secteur privé soient enregistrés.
Que propose le gouvernement ivoirien dans la promotion de la recherche? Professeur Bamba Abdourahmane, directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'État subventionne le brevetage à une certaine hauteur. Une fois que les brevets sont obtenus, il y a la FEDENSI à travers le fonds de garantie des prêts qui soutient aussi pour faciliter le brevetage. Foncial pour l'agriculture, il y a eu le FONARI. Il y a le FILCA et aujourd'hui vous avez le FONSTI.
Le FONSTI et l'OIPI ont signé en avril dernier une convention visant à valoriser les créations intellectuelles des chercheurs.
Célébration aujourd'hui 20 juin de la journée mondiale du réfugié. Le thème retenu cette année est la solidarité à l'endroit des personnes réfugiées et sur la situation du réfugié dans le monde en général et de la Côte d'Ivoire. Suivons donc écoutons les précisions de Souleymane Momodou, responsable de la communication du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, La crise du Sahel, en particulier au Burkina Faso, a construit des milliards de personnes à chercher refuge dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Au 18 juin, la Côte d'Ivoire avait accueilli 51 708 réfugiés. Ça, c'est la situation actuelle qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc, le réfugié vient du Burkina Faso.
Est-ce que vous, le HCR, vous apportez une assistance à ces réfugiés?
Oui, on travaille avec le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui, la Journée mondiale des réfugiés, c'est une occasion pour nous pour vraiment remercier et féliciter le gouvernement ivoirien parce que le premier responsable des réfugiés, c'est le gouvernement. Donc, c'est une opportunité pour nous pour remercier le peuple ivoirien pour son hospitalité et son soutien aux personnes déplacées de force et aussi reconnaître la forte implication des autorités et des communautés hôtes dans le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et aussi féliciter le gouvernement pour l'adoption de la loi d'asile en 2023. Et le nombre de personnes déracinées a continuellement augmenté au cours des 12 dernières années.
Vous écoutiez Souleymane Momodou, responsable de la communication du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Et comme on le disait, le thème retenu cette année, c'est solidarité à l'endroit des personnes réfugiées. Et dans la région du Bunkani, l'association des femmes de Bouna, dénommée Aimons-nous vivants, a fait don de vivres et épagne aux mères veuves et aux femmes de demandeurs d'asile en situation difficile. Au total, 50 mères indigentes ont pu être cadeautées grâce au soutien de Camara Loguissonan, deuxième vice-gouverneur du district autonome du Zanzan. Les échos de cette cérémonie avec Jérôme Kouassi.
Si c'est nous, conseiller représentant le parrain de la cérémonie, Camara Loguissonan, deuxième vice-gouverneur du district autonome du Zanzan, prêt à réitérer son soutien à ces femmes.
Elles ont aussi prouvé que aimer quelqu'un vivant, c'est de lui offrir des cadeaux, c'est de le soutenir. Et l'association vient tout à l'heure de soutenir des veuves, des personnes démunies. Et là, je ne peux que leur dire merci. Si nos mamans nous sollicitent l'année prochaine encore, nous serons là.
Gézanlou Zoukou Josiane, épouse Yeboué, membre de l'association Aimons-nous vivants.
C'est bien vrai qu'elles ont perdu leur mari, leur conjoint, mais elles ne sont pas seules. Il y a une association désormais qui s'appelle Aimons-nous vivants. Je pense bien que dans les années à venir, les jours à venir, on fera plus que ça, parce que c'est vraiment important.
Cette association a aussi cadoté des femmes demanderesses d'asile en détresse et en attente de rejoindre le site de réfugiés de Timala. Kouakou Fanta épouse Touré, la présidente.
Nous avons des mamans peu des réfugiés parmi ces mamans-là aujourd'hui qui ont reçu les dons aussi. Elles sont dans les familles pour le moment, qui les accueillent pour le moment. Mais on a pu mettre la main sur ces mamans-là, on a mis la joie de leur cœur ce soir.
Un geste qui a mérité des bénédictions.
Alci Sangwezoana de Diamato, Aladjema, Aladouanya,
Alima Ouattara, Diamanta. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour nous. Ça nous a dépassé.
L'association est mon nom vivant a profité de l'instant pour demander aux cadres et aux opérateurs économiques pour qu'ils viennent en aide aux demandeurs d'asile de la région. Jérôme Kouassi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, la France envisage de réduire sa présence militaire dans ses anciennes colonies africaines. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on annonce une réduction de 600 à 100 militaires. Et donc, pour le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, la France est obligée de se réadapter, surtout aux exigences politiques et militaires nouvelles dans les pays africains. On écoute ses explications.
La France fait de la réelle politique. Elle a essayé d'adapter son dispositif militaire à une réalité politique et militaire en Afrique de l'Ouest qui lui est défavorable depuis un moment donné. Et donc, elle veut être plus discrète sur le plan militaire, peut-être plus efficace sur le plan diplomatique et politique. Certaines colonies ont commencé à manifester un certain désir de souveraineté totale. Vous prenez le cas du Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Niger. Donc forcément, il y a donc une réduction de l'influence française en Afrique. Et cette influence-là, cette réduction de l'influence française a mené donc la France à réanalyser en fait sa politique, sa présence en Afrique. Et je pense que la réduction des effectifs militaires est l'une des conséquences de cette situation que je viens de décrire tantôt.
Mais au lieu de réduire l'effectif militaire français, la présence des militaires français, de réduire ce nombre, est-ce qu'il n'est pas mieux de partir une bonne fois pour toutes, définitivement quitter le pays et puis avoir une coopération diplomatique?
Oui, c'est une piste. Mais ça peut se faire de façon assez progressive. On peut dire s'il y avait 3000 soldats français qui venaient à 300 soldats français. Il y a déjà donc une réadaptation de la politique française à la réalité en Afrique. Donc ce que vous dites est une piste, mais ce que la France envisage actuellement est une piste qui peut être analysée à sa juste valeur. Comprendre qu'il y a une dynamique en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, il faut donc s'adapter à cette dynamique-là.
Professeur Bamba Abdoulaye, que vous venez d'écouter, est spécialiste des relations internationales. Il a été interrogé par Constant Maïlé. Et puis on a un dossier d'actualité dans cette édition. On parle des cas de grossesse en milieu scolaire et particulièrement dans le Tonkpi. Le tableau des grossesses en milieu scolaire dans la région pour cette année 2023-2024 n'est pas du tout reluisant, ce qui n'est pas du tout du goût des acteurs du système éducatif de la région qui donnent de la voix afin que le problème soit circonscrit. Plus des détails donc dans ce dossier d'actualité mené par Stéphane Adams.
Cette année, 408 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire dans le Tonkpi. Ce chiffre sonne comme une démission des uns et des autres. Flan Cyril, président de la jeunesse communale de Danané.
Concernant le résultat vraiment des jeunes filles enceintes en milieu scolaire cette année, concernant le Tonkpi, il faut dire que c'est une déception pour nous, jeunes de Danané, et que tous les parents, parce que c'est pas facile d'accepter de mettre ton enfant à l'école et la retrouver enceinte en plein milieu scolaire ou en fin d'année scolaire.
Zigbe Capeux et Gère, parents d'élèves, situe la responsabilité de chacun.
Il faut dire que les origines sont multiples. D'abord, il y a la démission des parents. Quand les enfants sont admis dans les classes supérieures, dans les collèges, je viens ainsi dire, ils abandonnent les enfants, il faut le dire. Parce que quand l'enfant vient à l'école, il est livré à lui-même, la fille est livrée à elle-même. Et au bout de deux mois ou trois mois, la fille revient du village avec quelques aliments. Les deux mois passés, la fille est livrée à elle-même, elle oublie de commander et pas moins se livrer. Et c'est ce qui fait que ce taux a augmenté cette année à l'Atokpi. Il faut dire qu'il y a aussi les responsables d'éducation qui sont aussi responsables, parce que en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, ils sont appelés à être des bons éducateurs. Quand on entend qu'un enseignant ou un professeur a grossi une fille de 13 ans, une fille de 16 ans, et là il faut dire que ce n'est pas bien.
Vu ce tableau sombre, quelques pistes de solutions sont proposées. Nyan Bongé Jean, enseignant d'anglais d'un lycée de la place.
Pour éradiquer ce problème-là dans le Tonkpi, je dirais que dans un premier temps, c'est de sensibiliser, étant donné que lorsqu'un enfant vient s'inscrire, il laisse au moins les contacts d'un des parents. Et nous allons effectuer un suivi, non seulement sur le comportement que l'enfant aura, les rendements scolaires de l'enfant, sur les taux d'absentéisme, si nous voyons qu'il y a des failles, il est de notre droit d'interpeller les parents pour les prévenir sur ce qui est en train de venir et voir dans quelle mesure, de façon connivente, trouver une solution vraiment adéquate.
Bonobo Ernest, chauffeur d'une société.
En cet effet, vraiment, nous demandons à l'État pour pouvoir aider nos jeunes sœurs en créant vraiment des centres d'accueil pour les jeunes filles, des internats pour les jeunes filles, pour leur permettre d'être regroupées dans ces coins-là pour être suivi, parce que c'est pas facile.
Soupoudé Marius, libraire.
Nous demandons que les ONG soient accompagnées par l'État qui commence à venir sur le terrain pour essayer de divulguer ces messages-là auprès de la population et pour qu'au moins il y ait un message fort qu'il faut donner aux enseignants, aux parents, aux élèves eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si le message n'est pas bien passé, il va sans dire que la situation va toujours s'empirer.
Notons que le Tonkpi occupe la deuxième place nationale après celle de la région du Nawa avec 409 cas de grossesse enregistrés cette année en milieu scolaire. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Ainsi s'achève ce 18h dont voici le rappel de l'essentiel. La question de l'article 185 nouveau du Code pénal ainsi que la déclaration d'Alassane Ouattara devant le Parlement mardi dernier ont fait l'objet de décryptage ce jeudi à la 27e tribune du PPACI animée par son président exécutif Sébastien Danon-Djedjé qui, souhaitant des élections apaisées, veut la réforme de la commission électorale indépendante. Et puis le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation Fonsti était face à la presse ce jeudi pour expliquer l'importance des brevets dans la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et donc inciter les opérateurs économiques privés à financer la recherche. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Santé pour tous avec Paul-Bénédicte Bolou. Excellente soirée à l'écoute de Radio de la Paix.
Santé pour tous. Santé.